Bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 3 mai 2020. La liturgie d'aujourd'hui nous propose quatre textes et je vous invite à méditer sur ces quatre textes et à laisser Jésus s'unir à vous, que je laisse Jésus s'unir à moi à partir de ces quatre textes. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 41. Le psaume 22, la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 20 à 25, et l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le jour de la Pentecôte et Pierre est debout avec les 11 apôtres. Il élève la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que devons-nous faire? Et Pierre leur répondit, Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait, les exhortait en disant, Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3 000 personnes se joignirent à eux. Je ferai un petit commentaire après chaque texte. Celui-là, c'est l'annonce centrale du christianisme et de tous les chrétiens. Parce que nous sommes chrétiens, nous disons, nous annonçons, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Dieu l'a sorti du tombeau, il lui a donné la résurrection. Il l'a ressuscité. Ça, c'est l'annonce centrale du christianisme. Je suis chrétien parce que je pense que cette phrase est juste et vraie, et parce que j'ai décidé de croire à cette phrase. Alors, je crois qu'il faut que nous fassions un effort, vraiment peut-être très grand, ça dépend, pour ne pas croire que c'est le peuple juif qui a crucifié Jésus. Je crois que cette pensée qui court depuis 2000 ans, elle n'est pas ajustée et elle est fausse. Ce sont des personnes en responsabilité au moment de cette crise, c'est-à-dire de cette venue de Jésus et de cette non-acceptation de la prédication et des actes de Jésus, qui ont fait que les personnes en responsabilité juives n'ont pas, ont préféré tuer l'un des leurs plutôt que de voir leur religion, alors disent-ils, hein, enfin, assombrie, réduite, minimisée. Nous, nous voyons, nous croyons que la religion avec Jésus, elle est agrandie. Mais il faudra la vérifier au niveau catholique et au niveau chrétien. Quand il y a des chrétiens chez nous qui annoncent vraiment Jésus avec tellement d'amour, tellement de demandes, par exemple, une chrétienne me disait, pourquoi les prêtres n'iraient-ils pas, après le 11 mai, donner la communion à des personnes et proposer à des jeunes adultes, adolescents avec un adulte, mais d'aller donner eux aussi la communion. Je trouve que autour de nous, il y a des idées qui me font penser que Dieu est imaginatif. Je pense qu'il y a des idées qu'il faut creuser. Je ne dis pas qu'il faut forcément aller dans toutes ces directions, mais je n'ai pas eu beaucoup de propositions de direction, de chemin pour l'instant, hein, de la part de ma communauté. Il y a très peu de gens qui m'ont téléphoné pour me dire, voilà ce qu'on pourrait faire, voilà nos idées. Et moi, je pense que les idées que vous avez, dites-les à vos pasteurs, au Père Stanislas, au Père Antoine, à moi, pour que nous puissions vous aider, que nous discernions nous aussi avec l'équipe d'animation pastorale paroissiale, mais que nous puissions discerner, mais après lancer les idées de Dieu. Il y a eu, on peut dire, de l'affrontement cette semaine. Au niveau de l'annonce de M. Édouard Philippe, qui était, je dois avouer, un peu lapidaire. Quelques phrases hein, au niveau des cultes, ça aurait peut-être mérité un peu plus. Mais voilà, il dit, nous parlerons de tout cela à partir du 2 mai. Personnellement, je vous donne mon avis personnel. Je suis d'abord gêné parce que moi, je célèbre la messe et je communie au corps et au sang du Christ, et pas vous. Donc ça déjà, je me dis que les réflexions que je vous donne, les conseils, elles sont pas forcément, ces conseils ne sont pas forcément valables par rapport à moi, puisque moi, je ne les applique pas. Je vous enverrai dans la journée deux textes, même trois textes, de réflexion, dont un de Monseigneur Emmanuel Lafond. Il dit, nous partons au désert. Et une personne, une chrétienne, me disait, c'est pas exactement vrai, parce que lui ne part pas au désert, puisque lui peut communier. Et c'est vrai que quand tout le peuple de Dieu est parti au désert, les prophètes sont partis au désert avec eux. Ils avaient perdu le temple, ils avaient perdu leur travail, ils avaient perdu leur terre. Ils avaient vraiment perdu le socle de leur foi. Alors que nous, les prêtres, nous n'avons pas perdu le socle de notre foi puisque nous, nous communions. Mais ce que je veux dire, c'est que je souhaite vous aider à vivre ce moment qui, pour certains, n'est pas trop difficile de ne pas vivre la messe, et pour d'autres, est très difficile. Et je pense d'abord à ceux pour qui c'est très difficile. C'est pour ça que je dis, comment pouvons-nous vivre de Jésus dans cette période difficile? Et donc, j'insiste beaucoup sur la communion à la parole de Dieu, le fait d'apprendre des phrases par cœur. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Répétez-vous cette phrase, si vous le voulez, pendant des centaines et des milliers de fois. Lisez les actes des apôtres et répétez-vous les phrases des actes des apôtres. Par exemple, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Chapitre 2, verset 32. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Je vous invite à croire que vous recevez le don de l'Esprit. Vous recevez la foi en la résurrection de Jésus. Vous recevez la foi en la résurrection de Jésus. Ce Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a ressuscité. C'est cette pensée que j'ai, c'est comment vous aider à vivre le christianisme que vous désirez vivre, que vous habitez, que vous, dans lequel vous demeurez. Vous êtes les chrétiens de ce monde. Je ne pense pas que les comparaisons qui sont faites aujourd'hui sont justes. Nous ne pouvons pas comparer les époques. Et je serais très mal à l'aise personnellement, ce n'est que mon idée, de célébrer la messe à l'église de Biscarrosse alors que les bars, restaurants et hôtels d'à côté sont fermés. Tout le monde fait des propositions pour désinfecter, pour mettre les gestes barrières de 1 mètre, 2 mètres ou je ne sais pas combien. Et notre gouvernement continue de fermer ce chemin touristique avec des arguments, avec de la réflexion. Nous pouvons les combattre, hein, mais j'aimerais pas être Monsieur Salomon qui, tous les soirs, doit faire des commentaires en direct sur la situation sanitaire de notre pays, le directeur de la santé. J'aimerais pas être à la place du Premier ministre ni du président de la République. Bien sûr, on entend des voix partout qui disent j'aurais fait mieux, j'aurais fait mieux. C'est pas sûr du tout qu'on aurait fait mieux. Alors bien sûr, nous pouvons poser des questions. La question que moi je poserai, c'est au nom de quoi nous ne voulons pas nous réunir à 20, 30, 40, 50 personnes, un tiers de la capacité de chacune de nos églises, peut-être avec des gestes barrières à faire, avec de la désinfection, enfin. Voilà, ça c'est une question que je poserai, mais je ne veux pas affronter ce gouvernement. Parce que pour l'instant, dans ce que j'entends, mais vous pouvez ne pas être d'accord, je ne sens pas qu'ils sont contre la vie des cultes de notre pays, que ce soit juifs, musulmans, bouddhistes, chrétiens. Les musulmans n'ont pas voulu se prononcer, n'ont pas voulu donner une parole dans le journal La Croix de hier. Et pourtant, eux, ils pourraient dire des choses. Ils pourraient dire des choses sur nous ne pourrons pas vivre la dernière journée du Ramadan en communauté. Nos mosquées sont vides. Si les musulmans étaient passés au créneau comme les catholiques, qu'est-ce que ces catholiques-là auraient dit? Nous ne pouvons pas entrer dans l'affrontement. Nous ne pouvons pas entrer dans de la haine. Nous devons entrer dans du questionnement. Et nous pouvons entrer en fait dans de l'apaisement. Oui, nous sommes dans la détresse de ne pas pouvoir prier dans les lieux de culte, de ne pas pouvoir prier ensemble parce que nous pouvons prier à l'église. Elles sont ouvertes. Vous pouvez aller vous confesser, nous demander de venir. Jusqu'à présent, personne ne m'a demandé d'aller à l'église pour donner le sacrement de réconciliation en étant à 3 mètres. Voilà, je vous invite vraiment en ce dimanche, à réfléchir et à apaiser, à réfléchir à ce qui est dit et à donner de la paix. Donnez-vous la paix du Christ, mais pas en vous serrant la main, en reprenant les phrases et en apaisant le ton. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, ben, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés. Le pardon de ses péchés. Si j'ai tant de désir d'aller à la messe, c'est pour le pardon de mes péchés. Alors, mettons par écrit nos péchés. Donnons-leur des noms, des vrais noms. Est-ce que j'augmente Est-ce que j'augmente les paroles de colère? Est-ce que j'augmente les paroles de mensonge? Est-ce que j'augmente des paroles de violence? Est-ce que j'augmente des paroles d'autorité mal placées? Mettons par écrit, vous comme moi, nos péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Moi, j'aspire à ce qu'il y ait une parole unie de tous les cultes français. Cette unité me semble témoin du Christ ressuscité. Ce dialogue entre nous, cet accueil de la pensée de l'autre. Oui, certains souffrent énormément de ce non-rassemblement, de cette non-communion. Mais est-ce que nous sommes prêts, au niveau sanitaire, à tout organiser pour que ces rassemblements correspondent à ce que nous attendons? Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait, les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Rendant gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. La première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Nous avons ici, dans la première lettre de Pierre au chapitre 2, verset 20, une description de qui est Jésus et de qui est l'Église. Le chrétien, c'est quelqu'un qui va suivre Jésus. Pas sur tous les chemins, mais sur cette parole à laquelle il va tellement communier qu'il va l'incarner par sa vie sur la terre. Vous êtes la parole de Dieu. Vous êtes une parole de Dieu, peut-être deux ou trois, mais vous êtes une parole de Dieu. J'ai trouvé celle, moi j'en ai deux ou trois, mais j'ai trouvé celle que je souhaite incarner et qu'au moment de ma mort, j'aimerais que des gens puissent la découvrir, et au moment de ma vie aussi, puissent la découvrir. Ici, nous sommes avec ces caractéristiques. Pour vous, c'est pour vous que le Christ a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Nous, nous avons commis des péchés. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. On ne peut pas dire, vous savez, c'est toujours important de mentir, hein, parce qu'on ne peut pas toujours dire la vérité. C'est pas vrai. Nous ne pouvons pas laisser dire des gens comme ça et laisser ces phrases courir dans nos communautés. Que vous puissiez pas dire toute la vérité, je suis d'accord, et moi aussi, je ne peux pas toute la dire. Mais que nous devions mentir pour ne pas dire la vérité, ça c'est faux. Ce n'est pas dans le cœur du christianisme. Ce n'est pas le cœur du Christ. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Nous nous sentons insultés aujourd'hui. Ne rendons pas l'insulte. N'allons pas dans les réseaux sociaux pour exacerber toutes ces mauvaises idées. Et là, je vous lis un petit passage de Vetti Ilzoom. La révolte qui attend pour naître le moment où le malheur vous atteint personnellement n'a rien d'authentique et ne portera jamais de fruits. L'absence de haine n'implique pas nécessairement l'absence d'une élémentaire indignation morale. Je sais que ceux qui haïssent ont à cela de bonnes raisons, mais pourquoi devrions-nous choisir toujours la voie la plus facile, la plus rebattue? Dans ce camp de Westerbork, j'ai senti de tout mon être que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore. Et je pense avec une naïveté puérile, peut-être, mais tenace, que si cette terre redevient un jour tant soit peu habitable, ce ne sera que par cet amour dont le juif Paul a parlé jadis aux habitants de Corinthe au 13e chapitre de sa première lettre. Nos insultes ne rajoutent rien à ce monde. Au contraire. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Je ne sais pas si j'en suis capable. Je ne sais pas si vous en êtes capable. Mais je sais que l'Église nous invite à entrer dans ce chemin, dans ces chemins. Il n'y en a pas d'autre. Cette première lettre, ce passage ici est un passage, j'allais dire exceptionnellement chrétien, c'est-à-dire c'est vraiment le cœur de notre foi. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que morts à nos péchés nous vivions pour la justice. Par ses blessures nous sommes guéris. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 1 à 10, cette phrase, c'est une phrase que j'ai régulièrement dans la mémoire. Le verset 10. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie, dit Jésus, et que votre vie soit en abondance. Oui, il nous manque des choses. Oui, je reste dans ma maison toute la journée. Alors que je devrais sortir et que je peux, je sors très peu. Voilà. Mais je me dis, comment vivre avec Jésus dans cette maison qui est bien grande, même pour trois prêtres, par rapport à des appartements qui sont si petits. Comment vivre dans un lieu petit, entouré de livres, avec une guitare et avec un téléphone portable pour vous aider, pour me laisser aider par vous, pour un, voilà, c'est. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons, nous pouvons rester en vie. Nous pouvons trouver la vie. Alors on va demander de l'aide, hein, ça c'est sûr. Mais nous pouvons trouver la vie. Je crois qu'il suffit juste d'une chose, c'est le dialogue. C'est le fait de parler à quelqu'un, peut-être en lui lavant les pieds, c'est-à-dire en étant un peu plus bas et en lui disant « Je vais te raconter ce que je vis, est-ce que tu peux m'aider ?» Voilà, cette nuit, hein, En fin de soirée, un papa m'a appelé et puis m'a dit, j'en peux plus, est-ce que je peux avoir un petit temps avec vous? Il y a des gens qui n'en peuvent plus, peut-être que vous qui écoutez, là, vous n'en pouvez plus. Demandez de l'aide, cherchez la personne qui peut vous écouter, qui peut se taire. Avoir peu de conseils et beaucoup d'écoute. Comme dit le pape François, j'aimerais que nous instituions des ministères de l'écoute. Moi, j'aimerais instituer des ministères d'écoute. Envoyer des jeunes dans les universités, dans leur zone de travail pour écouter les autres. Envoyer des personnes très âgées dans les EHPAD. Ils y sont déjà. Mais manifester un ministère d'écoute. Les envoyer de manière officielle. Et puis, il y a ce texte qui, pour moi, est très divin, c'est-à-dire énigmatique. Je comprends pas trop la porte, le berger, le portier. Alors bien sûr, Jésus explique, je suis la porte des brebis. Mais au début, il dit, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Et Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, dit saint Jean, au chapitre 10. Mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Ce que je comprends de ce texte, parce que je ne comprends pas tout, et je suis très heureux parce que Dieu est incompréhensible sur plein de sujets, chaque fois qu'on lit la Bible, un texte de la Bible, ce que je comprends, c'est que le véritable accompagnateur spirituel, le véritable chrétien, le véritable prêtre, le véritable papa, maman, c'est quelqu'un qui va laisser passer Jésus et qui ne va bloquer personne. En tout cas, il va s'entraîner à ne bloquer personne autour de lui. Sinon, c'est quelqu'un qui abuse de son autorité. Nous sommes chrétiens parce que nous laissons la liberté intérieure aux autres. Nous ne leur demanderons jamais de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Et nous ne prendrons jamais la parole de Dieu pour l'enfermer dans nos propres idées, afin de s'agripper aux personnes que nous rencontrons et que nous accompagnons et que nous guidons. C'est ça qu'il faut enseigner aux enfants, c'est ça qu'il faut enseigner aux adultes, à ceux qui font leurs premiers vœux, à ceux qui sont confirmés, baptisés adultes, ceux qui sont tout feu, tout flamme. Personne d'autre que Jésus ne peut être la porte des brebis. Et tous ceux qui sont venus avant moi, dit Jésus, sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal, mais délivre-nous du mal, mais délivre-nous du mal. La 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 la. Amen, amen. Mais délivre-nous du mal. Amen. Les prières universelles. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Des hommes et des femmes donnent leur vie pour toi et pour nous, à travers les vocations sacerdotales, religieuses et consacrées. Viens les conforter dans leur don total et donne-leur la force de tenir bon dans la durée. Nous t'en prions, ô notre bon pasteur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Chaque jour, tu appelles sans te lasser des hommes et des femmes à te servir et à servir leurs frères et sœurs dans le feu de ton amour. Ouvre les oreilles pour que ces personnes entendent tes appels et affermis les cœurs pour qu'elles répondent favorablement. Nous t'en prions, ô notre bon pasteur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Le martyr n'est pas une vocation, mais chaque jour que tu fais, de nombreux chrétiens témoignent de leur foi, jusqu'au don ultime de leur vie. Viens bénir et rendre fécond leur sacrifice, témoignage d'un amour sans condition. Nous t'en prions, ô notre pasteur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Certains ont une charge de responsabilité au cœur de la vocation, à laquelle ils ont répondu oui de grand cœur. Viens donner ton esprit de force, de discernement et de sagesse à notre pape François, notre évêque Nicolas, tous nos évêques, les supérieurs des communautés religieuses et tous les responsables dans l'Église. Nous t'en prions, ô notre bon pasteur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.